Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, et aussi la chronique « L'aptitude » de Luc, qui a pour titre aujourd'hui « 10 d'un coup ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 29 juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, Adrien Beaumont, bonjour.
Salut.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, qui sont aujourd'hui au studio avec moi. Bonjour à vous. C'est une grande première pour Laurette au studio, je crois. Donc je vous laisse la parole pour votre chronique.
Hello papa. Je suis un petit fichier texte envoyé par différents serveurs sur l'appareil que j'utilise quand je consulte des sites web. Apparu au milieu des années 90, je suis un traceur qui a pour rôle de garder en mémoire les comportements en ligne des utilisateurs et peut parfois leur simplifier la vie. C'est par exemple grâce à moi qu'un site marchand peut se souvenir du contenu d'un panier entre deux visites. Je suis...
Top, les cookies!
Ah oui, tu gagnes un cookie! Mais bon, je suis vénère. En vrai, à chaque fois que je vais sur un site internet, faut choisir, valider ou accepter les cookies. Sur certains sites, comme Allociné même, ils te demandent de payer pour refuser les cookies. Franchement, internet, c'était mieux avant. Quelle mouche les a donc piquées sur la toile?
Ah, les cookies. On doit ce nom à Lou Montulli, informaticien américain qui a été l'un des fondateurs de Netscape, l'ancêtre de Mozilla Firefox. Une vraie pépite que ce cookie pour raconter internet. Et en parlant de pépites, tu devrais écouter les pépites libres de Jean-Christophe Becquet, disponibles en podcast sur le site de Libre à vous. On y découvre plein de trucs sympas.
Ah ouais, mais moi j'ai pas faim et je veux pas de pépites ou d'histoires de cookies. Je veux juste comprendre pourquoi ils embêtent mon web avec toutes leurs fenêtres agressives et leurs cookie walls.
Tu permets ? Je vais supprimer le cookie que j'ai gagné tout à l'heure. Il me suffit de cliquer sur le cadenas dans la barre d'adresse dans Mozilla Firefox et de choisir le menu ad hoc. Voilà, c'est fait.
Mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'effacer les cookies si je perds mon panier? Ou si je dois redonner ma préférence de langage, ou pire, voir réapparaître encore une fois le cookie wall?
Hélas, s'il y a des gentils cookies qui sont là pour t'aider, ils ne sont plus seuls. Il y a aussi des cookies méchants et intrusifs qui veulent tout savoir de toi. D'ailleurs, parfois, même les gentils cookies peuvent être ambigus et contribuer à mieux cerner tes habitudes.
Et du coup, les méchants cookies, je peux les supprimer sans vergogne?
Mince, je crois que ce mot « vergogne » n'est plus très utilisé de nos jours et ça risque de ne pas faire très naturel dans ta bouche dans cette chronique.
Ah ouais, je te confirme, dans la vraie vie, j'aurais plutôt dit un truc du genre « je peux les tracher à terre without regrets ». Puis en plus, ça aurait permis de glisser un mauvais jeu de mots médical de deuxième écoute. Mais bref, revenons à mes cookies.
Donc oui, des cookies vilains existent et sont là à des fins de ciblage. Des serveurs déposent des traceurs et l'information collectée est revendue à des régies publicitaires. C'est l'évolution dans le monde numérique de ce qui se pratiquait avant. Tu t'abonnais à un magazine de chasse et tu recevais ensuite de la publicité dans ta boîte aux lettres pour des promos sur les cartouches pendant la gueule.
Blanc. Mais il y a tant de cookies que ça, des traceurs vilains.
Pour s'en rendre compte, le meilleur moyen est de reproduire cette petite expérience que le prof de physique libriste Georges Kasnadar pratique dans sa classe.
Fanboy.
D'abord, tu ouvres Firefox. Tu désactives éventuellement les add-ons ou plugins anti-traçage que tu aurais mis en place pour une navigation plus tranquillisée.
Comme Privacy Badger, uBlock Origin, ou Canvas Fingerprint Defender, ou même Ghostory par exemple.
Waouh, je vois que tu maîtrises quelques extensions incontournables pour limiter tes traces sur Internet. Respect total de moi envers toi.
Merci. Mais des fois, je suis quand même gênée de les activer parce que ça limite les rémunérations des youtubeurs à cause du manque à gagner, déjà faible pour eux sur les revenus publicitaires par exemple.
Je vois. C'est un peu plus compliqué que ça à mon avis. De fait, la question de la rémunération de celles et ceux qui produisent des contenus est un sujet extrêmement important, mais je trouve ça un peu pratique de la part des géants du web de dire qu'il faut désactiver les anti-traceurs et les anti-pubs. C'est d'abord pour protéger leurs profits colossaux qu'ils disent ça, et les youtubeurs par exemple sont de bons alibis et font de bons petits soldats. Si les géants du web étaient si empathiques, ils auraient contribué de meilleure grâce à financer la presse ou à payer des impôts décents plutôt que d'élever l'optimisation fiscale au rang d'un art ultime.
Ouais, d'autant que quand on regarde les conditions pour gagner un peu d'argent sur YouTube, y a beaucoup de prétendants et de prétendantes, mais peu d'élus, même si ça évolue avec le métier d'influenceur et les partenariats. Bon, bref, j'ai désactivé les anti-traceurs, et ensuite ?
Tu ouvres le débogueur de Firefox par la touche F12 par exemple, tu sélectionnes le volet réseau, et là, tu hallucines.
Damn, exact, je confirme, j'hallucine, waouh. La quantité juste incroyable de trucs qui passent. Et donc tout ça, c'est des cookies ?
Non, il s'agit plutôt d'une liste de toutes les requêtes, autrement dit échanges d'informations, avec d'autres serveurs. Si tu essaies avec le site laposte.fr, le volet réseau précédemment ouvert affiche 105 requêtes, dont 22 ne sont pas associées au domaine laposte.fr. Ce sont donc des cookies tiers ou des scripts, des petits programmes, qui communiquent avec d'autres serveurs que celui avec lequel tu souhaitais échanger. Et par exemple, si on cherche à quoi correspond le script tryapptasty.com, on arrive sur un site qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Révolutionner l'expérience de votre marque et de vos produits, ou augmenter les conversions, les leads et les revenus, ou encore une approche de l'expérience client omnicanal.
Allez, gredin, me transformer comme ça, moi, à mon insu, en cliente omnicanal. Ah, du coup, je comprends mieux pourquoi ils nous demandent notre accord à l'arrivée sur le site. C'est pour qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe.
Tu auras compris que c'est la réglementation qui évolue et qui leur impose de prévenir et d'obtenir le consentement de l'internaute.
Ça me revient maintenant, l'article 4, 7 et un peu le 11 du RGPD. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque, et l'utilisateur doit être en mesure de le retirer à tout moment avec la même simplicité qu'il l'a accordé.
Ah tiens, je pensais qu'il y avait aussi l'article 42, dont acte. Mais effectivement, alors qu'au début d'Internet, les cookies étaient acceptés par défaut dans les paramètres des navigateurs et que les utilisateurs n'étaient pas informés de leur présence, avec les abus, l'Europe puis chaque pays ont dû réglementer tout ça.
Donc, même si on constate une fatigue et un agacement au consentement devant ces cookie walls répétitifs, cette prise de conscience, c'est important pour tous et toutes. C'est la mise en pratique de cette prise de conscience nécessaire qu'il faut peut-être interroger.
Sans doute. Et Google va répondre à tes préoccupations. Ils ont annoncé récemment la fin des cookies tiers sur leur navigateur Chrome, prétextant bien sûr la protection de l'internaute. Mais malheureusement, les cookies ne sont pas les seuls outils qui permettent de profiler. En l'occurrence, Google va continuer à prédire finement par le biais d'un ciblage par cohorte d'internautes ou même par le CNAME cloaking.
Explique les gros mots d'abord.
En gros, pour te la faire courte, pour le CNAME cloaking, il s'agit d'utiliser les capacités des serveurs DNS, voire la première chronique, pour masquer l'origine de la requête ou du cookie et faire croire que cela vient bien du site que tu voulais visiter. Bref, c'est tromper les gens et ça outrepasse la nécessité du consentement. Et puis, il y a aussi l'empreinte numérique, ou fingerprint. C'est-à-dire la reconnaissance par l'intermédiaire du matériel utilisé, du navigateur, du système d'exploitation, etc. En croisant ces informations et d'autres, on peut même déduire facilement des données sensibles, dont l'orientation sexuelle, religieuse ou politique.
Damn. Et comme tu l'as dit en plus, dans la chronique 3, quand on sait prédire, on sait influencer, tant commercialement que politiquement. Démocratie en danger, dirait mamie.
Et en préparant cette chronique, j'ai même découvert tout ce qui est à l'œuvre avec les données ainsi collectées. Sur link.cnil.fr, on découvre qu'elles font l'objet de transactions incroyables. La différenciation par utilisateur et par annonceur a conduit au développement de systèmes permettant de mettre en relation des annonceurs et une impression, un espace publicitaire affiché à un utilisateur sur un site web, dans un délai très court correspondant au temps de chargement d'une page web, donc inférieur à 100 millisecondes.
Mais c'est dingue, attends, 100 millisecondes, c'est 20 fois le temps qu'il faut à Xor pour revêtir son scaphandre de combat.
Tout juste. On vous mettra la ref pour les boomers sur la page du podcast. Et durant ces 100 millisecondes, les impressions sont proposées à de nombreux services publicitaires via un système d'enchères qui s'améliore avec la précision des données fournies. Ces transactions avec nos données représentent plusieurs centaines de milliards d'enchères par jour, alors qu'en comparaison, la bourse de New York ne gère environ que 12 milliards de transactions.
Oh les boulots ça, New York. Mais avec tout ça, faut vraiment que je travaille mes traces sur Internet, du coup. C'est pas possible d'alimenter sciemment un tel système.
Je t'y encourage en tout cas, mais ça reste d'une grande complexité. Malgré mon expérience, je reste une vraie passoire à données. C'est un travail de chaque instant que d'essayer de maîtriser cela.
Bon, bah je vais essayer de m'y atteler. Je te fais la bise, mon papa Potam.
La bise aussi, et n'oublie pas, à cœur vaillant, la voix est libre.
Merci, merci beaucoup à Laurent et Laurette Costi pour cette chronique. Je pense que je ne suis pas la seule à être une grande fan de votre chronique, qui à la fin à la fois drôle, pédagogique. Il y a un énorme boulot derrière. Il suffit de regarder la liste de références sur notre page consacrée à l'émission. Je vous invite à la consulter parce qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre. Donc, je vous dis merci encore. Et rendez-vous à la rentrée en septembre pour une prochaine chronique, peut-être.
Merci Isabella.
Merci. Merci. Donc nous allons maintenant faire une pause musicale et nous allons écouter Ghosts par Daniel Weltlingler sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Il s'agit d'un violoniste jazz inspiré par le style Gypsy Jazz créé par Django Reinhardt. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. nous venons d'écouter Ghosts par Daniel Weltlingler, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY ESA 3.0. Je vous avais dit en introduction qu'il s'agit d'un violoniste jazz, mais vous l'aurez bien entendu, il y avait aussi d'autres musiciens, notamment contrebasse, guitare. Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY ESA qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix que vous transformez ou créez à partir du matériel utilisant cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours. Nous allons écouter ce sujet enregistré. On se retrouve juste après. Bonjour, je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le mardi 15 juin 2021 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir toutes nos personnes invitées. Nous allons parler de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique et nous allons le faire avec Anna Catalino, chef de projet web chez Codepi, en studio avec moi. Bonjour Anna.
Bonjour.
Aurélia Garnier, chef de produit chez C-Star Industries, par téléphone. Bonjour Aurélia.
Bonjour.
Et Pierre Fumé, administrateur système chez Easter Eggs, qui intervient via le système d'audioconférence Mumble. Bonjour Pierre.
Bonjour Isa.
Nous allons commencer notre échange. Il y a Cana en studio avec moi. Donc Aurélia, Pierre, si vous souhaitez intervenir à un moment, mais que vous n'avez pas la parole, n'hésitez pas à m'appeler, Isa, pour que je vous donne la parole. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, donc, vu le sujet, la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique, pourquoi vous avez, à un moment de votre vie, décidé de faire cette reconversion ? Quel a été le déclic ? Anna, peut-être, tu veux commencer ?
Oui, bien sûr. Ben moi, c'est surtout une rencontre pendant mon Master 2 de médiation culturelle, où on avait des cours de multimédia. Et mon super professeur de multimédia m'a fait découvrir le processing et j'ai vraiment adoré ça, donc j'ai commencé un peu à coder mes petites choses en processing.
J'avais tout expliqué ce que c'est le processing.
Oui, en gros, enfin là c'était du P5, c'était globalement du code destiné à la production de d'œuvres artistiques. Enfin nous en tout cas on s'en servait pour ça et c'était un peu pour comprendre tous les artistes numériques, ce genre de choses. Enfin c'était vraiment dans ce cas-là. Et j'ai adoré vraiment faire ça. Enfin, je me souviens, je créais des petits ronds, je les détruisais avec des touches. Enfin, c'était vraiment super. Et le déclic est vraiment venu là. J'ai continué un peu. Enfin, j'étais dans la culture, donc j'ai continué à avoir quelques expériences. Et finalement, à chaque fois, dans toutes mes expériences, c'était vraiment le côté un peu pas forcément dev, mais je faisais. Enfin, j'utilisais des CMS, enfin ce genre de choses. J'ai fait du typo 3, j'ai fait du WordPress. Mais finalement, on m'a parlé de l'école Simplon, alors au départ pour que j'y sois chef de projet, et en découvrant l'école Simplon, qui est une école de dev qu'a fait également Aurélia, je me suis rendu compte que je voulais pas y travailler, que je voulais être élève là-dedans, et que voilà, c'était vraiment ça que je voulais faire. Sachant que j'avais quand même une petite appétence pour l'informatique depuis toujours, mais j'avais jamais envisagé d'en faire mon métier.
D'accord, donc effectivement, tu disais que tu étais plutôt dans le domaine de l'art et de la culture. Mmh. Et voilà, et c'est au cours du Master 2, donc la rencontre avec ce professeur et avec cette façon de travailler.
Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment le déclic, c'est la première personne qui vraiment m'a montré que je pouvais mettre les mains dans le code, en fait.
D'accord, et c'était à quel âge ?
Oula, c'était en 2016, donc je sais plus exactement quel âge j'avais, mais j'ai 30 ans, vous pouvez faire le calcul.
Très bien. Et en fait, tu disais, tu as découvert, tu as mis les mains dans le cambouis, comme on dit, et après, ça s'est fait assez vite, c'est-à-dire que quand il y a eu le déclic, tu as tout de suite contacté l'école d'informatique pour te former.
Non, j'ai attendu, j'ai quand même fait deux expériences dans la culture de 6 mois. Enfin, c'était un stage et un service civique. Et c'est à la fin de ce service civique, au moment où il fallait vraiment que je me lance dans le monde professionnel, que finalement j'ai décidé d'un peu sortir du chemin tracé.
D'accord. Merci, merci Anna. Je passe la parole peut-être à Aurélia. Je sais que tu te décris dans une page de présentation web comme une personne qui a eu un parcours atypique, c'est-à-dire que tu as fait pas mal d'expériences professionnelles assez différentes. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler et nous dire aussi comment ça se fait que tu as finalement choisi l'informatique pour ta carrière professionnelle?
Oui, bien sûr. Alors à la base, j'ai fait des études en effet de photographie et après j'ai un peu voyagé à droite à gauche, j'étais en Angleterre, en Australie, etc. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration et en fait j'ai eu un moment de ma vie où j'avais envie de revenir sur quelque chose de plus créatif, mais je ne savais pas trop quoi, ni comment, ni pourquoi. Et j'ai entendu parler d'une formation qui était sur 5 semaines, qui s'appelait Aqueus, qui était aussi fait par Simplon. Et en fait, c'était une formation qui était réservée aux femmes. Et c'était une formation qui voulait qu'on réfléchisse ensemble pourquoi il n'y a pas de... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, mais pourquoi il y a beaucoup moins de femmes dans le numérique que d'hommes. Voilà. Essayer un peu de démystifier aussi le code, parce que je pense que c'est des choses qui me plaisaient, mais où il y avait une espèce de aura un peu mystique là-dessus, qui avait l'air extrêmement compliqué et extrêmement pas pour moi. En fait, de décoder un peu tout ça, sans mauvais jeu de mots. Et à la suite de cette formation qui était assez courte finalement, en effet j'ai fait une formation plus longue de 7 mois, c'est ça Anna?
Oui, c'est 7 mois.
Effectivement vous aviez fait le même cours et c'est là que vous êtes rencontrés.
Et c'est là où on s'est rencontrés, j'ai rencontré Anna.
Donc tu as enchaîné en fait avec une formation plus longue?
Tout à fait. J'ai enchaîné avec une formation plus longue. Au cours de cette formation, je me suis rendu compte que le code, c'était vraiment un truc qui me plaisait. C'était un peu comme jouer au Lego, quoi. Et ça me plaisait bien. Après, il y avait le côté un peu plus humain et organisationnel qui a pris un peu dessus. Et on pourra en parler plus tard. Et c'est pour ça que je suis devenue plutôt chef de produit. Mais ouais, en effet, démystifier un peu tout ça, je pense que c'était une des grosses missions de Simplon et de cette formation.
Et c'était la première fois que tu codais, vraiment, que tu programmais?
Oui, tout à fait.
Ah voilà, c'était vraiment une première.
Tout à fait.
Parce que,
tout à fait. Après, vu que j'avais fait j'ai une formation à la base de photographie, et j'avais un petit peu des expériences sur des logiciels comme Photoshop ou des choses un peu de traitement d'image, mais du code pur, avant Simplon, non, c'était un peu une terre inconnue pour moi.
Et heureusement que pendant la formation, tu t'es aperçu que ça te plaisait, parce que ça, c'était vraiment un saut dans le vide. Et si j'ai bien compris, pour Anna, voilà, tu en avais déjà fait un petit peu l'espérance. Pour toi, c'était vraiment une grosse nouveauté.
Oui, après, il y avait lors de la formation à Aqueus, on a eu quand même pas mal de présentations sur le sujet. Et je suis une personne assez curieuse de nature. Et pour moi, il n'y a jamais de mauvaises expériences. Donc, je pense que c'était un saut dans le vide. Mais je m'étais toujours dit, si au final, ça ne me plaît pas, j'arriverai à retirer quelque chose de ça. Et au final, je n'ai jamais regretté ma décision. Hein.
Très bien, merci. Merci pour ce témoignage. Et je vais passer la parole à Pierre. Toi aussi, tu as fait pas mal d'expériences professionnelles avant d'être informaticien, n'est-ce pas?
Alors, c'est vrai que je ne suis pas du tout informaticien d'origine. C'est mon troisième métier essentiellement. J'ai commencé vraiment sur le tard, l'informatique. Vers 40 ans, je dirais. Enfin, je l'ai un petit peu pratiqué dans mon premier métier qui était professeur. J'étais professeur de philosophie en lycée pendant 3 ans. Et là, c'était vraiment en tant qu'utilisateur. Mais j'ai d'emblée, en fait, le premier ordinateur que j'ai eu bidouillé un petit peu. Enfin, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait derrière. Puis j'ai complètement laissé tomber ça parce que j'ai changé de métier une première fois. J'ai travaillé en restauration, en service, en fait, en salle, en traiteur, restaurant, etc. Puis je me suis lassé de ça, de la restauration. C'était super de faire ça pendant un temps, mais j'ai eu envie de lever le pied un petit peu. Et parallèlement, je me suis intéressé à l'informatique, en fait, par moi-même, chez moi. Donc, je me suis formé.
En autodidacte?
Au début, Oui, au début de manière complètement autodidacte. Puis j'ai eu l'opportunité, en fait, sur la suggestion d'un conseiller pour l'emploi, tout simplement, de faire une formation équivalent Bac plus 2 d'administration système réseau à l'AFPA. Ce que j'ai fait, j'ai terminé ça en 2010, et donc j'ai commencé à travailler en informatique une petite année après ça, après une période de transition, vers l'âge de 40 ans, puisque j'en ai 52 maintenant.
Comme quoi, on peut se reconvertir même après 40 ans. Et je crois qu'il y a, que Paul Emploi t'avait interviewé, justement, comme exemple de personne qui peut se reconvertir aussi à cet âge-là.
Oui, alors le témoignage, en fait, sur le petit film qui avait été fait pour Pôle emploi, c'était pas lié à l'âge de la reconversion, c'était plutôt des exemples de reconversion un petit peu extrême, inattendue. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai pas un parcours classique, j'ai pas un parcours très logique, en tout cas, vu de l'extérieur comme ça, puisque je passe un peu d'un extrême à l'autre, d'un métier assez cérébral, intellectuel, et puis dans le service public, à travailler de manière très manuelle dans le privé, et puis de manière très intensive et répétitive aussi dans la restauration. Et puis voilà, après j'arrive en informatique comme ça, donc c'était plutôt pour illustrer ça, pour illustrer le fait que c'est toujours possible finalement d'arriver dans ce type de métier, pourvu qu'on trouve la bonne formation, qu'on sache ne pas avoir peur, ne pas appréhender en fait le changement, parce que c'est vrai que c'est pas très évident. Enfin, on change de métier, donc on redevient en fait quelqu'un qui est néophyte, et il faut réapprendre. Il faut réapprendre cette position-là aussi. Il faut l'accepter.
Et tu n'as oui, oh, Aurélia.
Non, je trouve que ce que dit Claire est hyper intéressant et je suis assez d'accord avec lui. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, mais je sais que en ayant fait pas mal d'expériences professionnelles assez différentes, mine de rien, je trouve qu'on arrive à récupérer un peu les savoirs qu'on a acquis sur ces anciennes formations, enfin sur ces anciennes expériences, pardon, et les réutiliser dans l'informatique. En tout cas, dans ma position, je me demande si de ton côté, c'est quelque chose que tu ressens aussi.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord, je trouve ça très pertinent aussi, effectivement. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est simplement quand on commence un métier de zéro comme ça, on est un petit nouveau. Et donc, quand on travaille avec des gens qui peuvent être beaucoup plus jeunes que soi-même, il faudra accepter quelque chose comme ça, quelque chose, le fait que les autres ont beaucoup plus d'expérience, de connaissances, etc. Par ailleurs, bien évidemment que quand on a déjà travaillé 10 ans ou plus, dans un métier même très différent, quelqu'un qui vous recrute est attentif à ça, enfin, normalement. Et normalement, on sait travailler déjà. Donc, on saura quelque part travailler aussi en informatique. Travailler, c'est-à-dire peut-être s'organiser, tirer parti de l'expérience, etc., etc.
Merci. J'ai Anna aussi qui voulait rebondir sur ce sujet.
Oui, justement, moi qui suis aussi parfois en plein recrutement de développeurs, on le voit beaucoup en fait quand on a deux profils, un profil sorti d'école d'ingénieur et un profil en reconversion mais qui a déjà eu une expérience professionnelle, qui connaît le monde de l'entreprise. En fait, finalement, moi, en général, je vais plutôt préférer la personne qui a déjà bossé en entreprise, parce que je considère que le code, ça s'apprend vite, ça s'apprend globalement sur le tas, même quand on sort d'école, on n'est pas forcément un dev formé dans le langage sur lequel on va travailler, alors qu'en fait, la façon de se comporter en entreprise, des soft skills qu'on a pu gagner au fur et à mesure du temps, ça, c'est des choses que je trouve qui sont très très valorisable et très très importante.
Merci, je suis ravie parce que j'ai des invités exceptionnels qui posent les questions que j'avais posées moi-même avant même que je les formule. Effectivement, c'était l'une des questions que je voulais vous poser. En quoi les expériences précédentes ont pu vous aider ou si elles ont été utiles, et vous avez déjà répondu. Tout à l'heure, Pierre, tu disais que tu avais déjà un petit peu pratiqué l'informatique quand tu étais prof de philo. Pourquoi tu t'es pas lancé dans ce métier à ce moment-là? Pourquoi tu as viré d'abord vers la restauration? Pourquoi tu as fait ce détour? Tu avais peur à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais quand j'ai découvert ça, en étant prof, j'étais très très loin d'imaginer bosser en informatique. C'est vrai, c'était vraiment du bidouillage, de l'exploration un peu chaotique d'ailleurs. De comment était fait un ordinateur, qu'est-ce qu'il y avait derrière les logiciels. Mais
tu te projetais pas dans une profession.
Non, pas du tout. Non, j'étais vraiment en phase de découverte complète. Et voilà, du coup, j'en étais pas du tout là. Et puis, en plus, moi, bon, j'ai fait une transition dont j'avais sans doute besoin, de passer d'un métier cérébral, comme ça, de prof, et puis avec la position d'autorité, peut-être, qu'est censé avoir le prof, à un métier très pratique, très quotidien, où il y avait une forme de dépense très intense au quotidien que j'ai vraiment cherché à cette époque-là. Donc non, je ne pensais pas du tout à l'informatique à ce moment-là.
En fait, tu avais besoin de ce détour, entre guillemets, parce que finalement, ça a été une expérience importante pour toi, mais tu en avais besoin, et donc finalement, quand tu dis c'est un parcours pas très logique, bah, quand on t'entend parler, en fait, ça paraît très logique, parce qu'il a satisfait tes besoins, tes envies de ce moment-là. Et je crois que pour Aurélia, c'est un peu la même chose.
Oui, je suis totalement d'accord, Isa. Oui, en effet, je pense que un peu comme Pierre, de toute façon, c'est marrant parce que c'est aussi une expérience dans la restauration, dans des restaurations, parce que c'était différentes expériences. Mais oui, je pense qu'il y a ce côté physique, moi, dont j'avais besoin. Je pense que j'ai un contact un peu facile avec les gens, et du coup, j'avais besoin aussi de ce contact humain. Donc,
est-ce qu'il te manque?
J'ai perdu le...
Parce que c'était quelque chose de très important, et je me demande.
Des fois, ça me manque un peu le rush, un petit rush du midi. Après, j'ai la chance dans mon métier où je suis quand même très en contact avec les gens. Enfin, là, encore aujourd'hui, j'ai passé, je pense, de mes 8 heures de travail, j'ai passé, je pense, 5 heures en conférence, au téléphone, etc. Donc ça va.
Donc, le contact humain est très important pour toi, et tu as quand même réussi à trouver un métier dans l'informatique qui te donne ça. Donc, il te peut te manquer un peu la restauration, mais tu es contente quand même de ton métier actuel.
Oui, tout à fait. Je pense que je me suis bien trouvée où est-ce que je suis.
Et par contre, par rapport à Pierre, on disait que pour toi, c'était une découverte plutôt, je ne vais pas dire tardive, mais tu as découvert l'informatique, tu as enchaîné avec la formation. Tu avais quel âge, si tu souhaites me le dire? Quand tu as fait la première formation hackeuse et qu'ensuite tu as enchaîné.
Tu parlais à moi.
C'est toi, Aurélia. Oui, pardon.
Désolée, je ne suis pas d'accord. J'avais à peu près le même âge que Anna, donc je pense que je devais avoir 25 ans dans ces jours-là.
D'accord.
Quand j'ai commencé. Ouais, dans ces jours-là.
Et j'ai la même question que j'ai posée à Pierre pour Anna. Tu me disais que pendant le Master 2, tu avais commencé quand même à prendre un peu le goût de l'informatique. Et pourquoi tu n'as pas suivi cet instinct tout de suite? Pourquoi tu as fait ce détour?
Mais en fait, ça faisait déjà 6 ans que je me préparais à travailler dans la culture.
Préparais?
Je me préparais. Non, j'avais déjà fait... j'étais allée jusqu'au master de recherche. J'avais finalement décidé de ne pas aller jusqu'au doctorat. Et en fait, c'était déjà une sorte de... Au départ, je me destinais vraiment à être chercheuse. Donc là, c'était déjà une sorte de pré-reconversion, parce que je m'étais redirigée vers la gestion de projets culturels. Et au final, c'est aussi... Moi, j'ai eu un peu cette difficulté de regarder tout mon parcours et me dire, OK, ben là, en fait, c'est pas ça que tu vas faire. Et ça fait 6 ans que tu te dis, bon, ben, allez, je vais être dans la culture, je vais bosser dans un musée ou quelque chose un peu du genre. Et finalement, ce sera pas ça. Et moi, c'est ce petit gap-là qui a été un peu difficile, en fait. Et la formation Simplon, pour ça, a été géniale, parce que ça a été vraiment un des meilleurs moments de ma vie. Enfin, clairement, j'ai adoré ma formation à Simplon. Et du coup, ça m'a permis de faire cette transition aussi psychologique dont j'avais besoin.
En fait, j'avais un peu l'impression que le fait de travailler dans la culture, pour toi, c'était presque plus une consigne dans ta tête qu'une vraie envie.
Ouais, mais non, sur la fin, je pense que c'était aussi un peu... J'avais arrêté de me poser la question de si je voulais le faire ou pas. Alors, j'aime toujours la culture et je fais des projets à côté concernant la culture, mais c'est vrai que ça faisait 6 ans que je m'étais conditionnée et que j'allais travailler dans la culture. Il y avait plus de... C'était même plus une question que je me posais.
Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi, pendant 6 ans, tu as suivi ce chemin sans plus te poser des questions?
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que, d'une part, quand on est lancé, au bout d'un moment, on a la licence, on se dit bon, je vais faire le master, et puis voilà, c'est un peu, ça roule tout seul. Et puis il y a aussi ce côté, alors c'est un sujet un peu touchy, mais je pense que quand on est une fille, c'est extrêmement valorisant de connaître la culture, l'histoire de l'art. C'est vraiment un domaine qui est très valorisé, en fait. C'est quelque chose, socialement, c'est bien. Et je sais pas, dans mon entourage, c'était très « Ah oui, Anna a fait de l'histoire de l'art, c'est très bien. » Mais personne ne m'avait jamais parlé de l'informatique, par exemple. J'avais pas, c'était pas du tout valorisé. Les sciences, c'était aussi... On me parlait peu de sciences. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce petit conditionnement, mais non volontaire, juste... Ça s'est fait un peu comme ça, et comme les gens ont vu que j'aimais la culture, bon bah c'est tout roulait en fait. Il y avait même, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être arrivé à un stade où il y avait même plus de questions à se poser.
Il y avait presque des automatismes, en fait.
C'est ça, c'était vraiment devenu un automatisme. C'était je suis dans la culture, et puis donc je reste dans la culture parce que je suis dans la culture. Enfin, c'était.
Et quand tu as décidé de switcher vers autre chose, parler de conditionnement presque involontaire, donc involontaire ou pression que tu ressentais. Mais quand tu as décidé de switcher et de passer à l'informatique, ton entourage a réagi comment ?
Eh ben, étonnamment, ils ont pas été plus surpris que ça. Donc c'est pour ça que je me dis que c'était peut-être aussi un conditionnement que moi-même j'avais intériorisé à force, parce que ça les a aussi soulagés, parce qu'ils voyaient d'un côté le monde du travail de la culture et de l'autre côté le monde du travail de l'informatique, et ils se sont dit bon au moins t'auras pas de mal à trouver du travail, donc ça c'était plutôt bien. Par contre c'est vrai que quand on me parle en soirée, on me parle toujours de culture et on me parle très peu d'informatique, et quand on me parle d'informatique, c'est ah oui non mais bon je comprends pas trop ce que tu fais, mais c'est pas grave, ça t'as l'air d'être heureuse, donc c'est très bien.
Donc pas trop conversation autour de ça, mais voilà, ça a été écouté. Ils ont compris que tu te panissais dans ce métier. Je pense que finalement, c'est ce qui compte pour les personnes qui nous entourent et qui sont attachées à nous.
Oui,
le fait
oui,
qu'on
oui.
s'épanouit dans son métier, finalement, c'est ce qui compte le plus.
Puis il y avait aussi cet aspect que la culture, c'est, on s'attend à avoir des métiers de passion. Donc on se dit aussi, l'entourage se dit que la personne, si elle le fait, c'est qu'elle est passionnée. Donc finalement, moi je suis arrivée en disant, écoutez, finalement j'ai une passion en plus, et cette passion-là va me permettre d'avoir plus facilement du travail. C'est pas pour ça que j'abandonne la culture, c'est toujours quelque chose que j'aime, mais petit changement de programme, c'est pas ça qui me donnera de l'argent au final. Donc entre deux passions, c'est vers celle-là que je me suis tournée.
Aurélia, toi aussi, tu as commencé avec toute autre chose, voilà, plutôt la photographie. Tu as fait plein d'expériences différentes pour ensuite tomber dans l'informatique. Est-ce que tu as ressenti à un moment, un petit peu comme Anna, des conditionnements volontaires ou involontaires ? Et est-ce que ton entourage t'a soutenu dans tes changements de direction ?
Écoute, je suis trop contente que tu me poses la question parce que je me mordais la langue pour essayer de parler à Anna. Bien, je vais intervenir, mais chaque chose en son temps. En fait, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Anna. C'est d'encourager en fait les filles dans le domaine et pas dans l'autre. C'est vrai que moi, j'ai honnêtement pas jamais montré une grosse appétence dans le numérique. Par contre, j'avais une appétence, je pense, assez forte dans les mathématiques. J'ai eu la chance et la malchance d'en avoir une aussi plutôt dans les arts et dans la photo, etc. Et on m'a clairement encouragée à aller plutôt du côté des arts et de la photo que du côté des maths. Bon, avec des filles, on met Paris dans une bouteille, hein, mais c'est vrai que je pense que clairement, je sais pas comment c'est maintenant, mais à mon époque, et en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, on m'a vraiment pu se diriger du côté de l'art. Pas forcément de ma famille, parce que j'ai de la chance d'être dans un cocon assez bienveillant où on m'a toujours dit « fais ce que tu veux, hésite à vie », mais plus du côté plutôt scolaire, je suppose. Et du coup, oui, moi perso, je me suis dirigée dans la photo, parce que oui, voilà, j'aimais l'art et j'aimais la culture, mais c'était aussi un peu plus un truc de c'était un peu mon excuse quand j'avais mon appareil photo d'aller rencontrer des gens et d'aller leur parler et d'aller en savoir un peu plus sur leur vie. Et du coup, j'ai la chance là-dessus, j'ai jamais reçu une pression quelconque pour arrêter ou continuer ou faire quoi que ce soit.
Parfois c'est une pression explicite, parfois c'est, comme disait Anna, c'est vraiment involontaire, hein, c'est quelque chose de très sur le fond, mais qui impacte quand même.
Ouais.
Mais tant mieux, hein.
Non, vraiment, j'étais en train un peu de réfléchir quand même pour pas raconter de bêtises. Non, vraiment, je pense que j'ai eu de la chance là-dessus. C'était plus du côté scolaire, mais de toute façon, je pense que d'une manière générale, j'ai toujours été un peu fâchée avec le système scolaire. donc voilà, mais du côté de mes expériences, de mes proches, etc., je pense qu'on m'a toujours un peu laissé faire ce que je voulais.
Très bien.
Désolée.
Et pour ce qui concerne Pierre, le seul homme qui intervient aujourd'hui, est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as ressenti un conditionnement dans tes choix professionnels?
Peut-être que j'ai, pas tellement, je pense. Le premier métier que j'ai commencé, prof de philo après un CAPES, ça s'est pas fait tout de suite. J'ai pas mal hésité avant, même, d'emblée. Et j'ai fait ça alors qu'il y avait pas du tout de prof dans ma famille. Après la restauration, là c'était encore plus le grand écart hein, par rapport à ce que faisait mon entourage. Donc non, j'ai pas ressenti trop de pression. Et puis après, ça rassure aussi quand même. Enfin, ça fait pas peur, parce qu'à l'informatique, on sait qu'il y a pas mal de travail, que c'est relativement facile de trouver du boulot, de même que la restauration d'ailleurs. Donc moi j'ai pas trop sorti de pression.
D'accord. Bah écoutez, je remercie pour ce premier tour de parole. Je vous propose de faire une pause musicale pour donner une respiration à notre échange. Nous allons écouter Playmate par Terror Bird. C'est un nom sous lequel publie l'artiste canadienne Nick Never. Nous avons déjà diffusé un morceau de cet artiste. Son genre de prédilection est le synth-goth pop, c'est-à-dire un pop électronique aux sonorités un peu sombres. Je vous laisse écouter. Playmate par Terror Bird, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Donc nous sommes en train de discuter de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique et je suis aujourd'hui avec mes invités, donc avec Anna Catellino, chef de projet web chez Codepi, Aurélia Garnier, chef de produit chez C-Star Industries et Pierre Fumé, administrateur système chez Historex. Et moi, c'est Isabella Vanni de l'April. Donc, nous allons poursuivre notre échange. Donc, on parlait de déclic, ce qui nous fait changer de parcours professionnel. Si on a été conditionné pendant notre jeunesse, par notre entourage, sur nos choix professionnels. J'aimerais, si j'ai bien compris, aucun d'entre vous a rencontré des difficultés particulières au moment où vous avez décidé de reconvertir vers l'informatique. Est-ce que c'est bien le cas? Par exemple, Aurélia, tu t'es sentie bien accompagnée? Tu as jamais douté une fois que tu t'es mise en route?
Douter, non. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit plus tôt, c'était un peu un saut dans l'inconnu dans mon cas, parce que contrairement à Anna et Pierre, je pense que je connaissais pas grand-chose, mais... Je pense que je suis taureau de signe astrologique, donc j'ai un peu foncé comme ça. Donc non, j'ai jamais, j'ai vraiment eu la chance là-dessus d'être plutôt bien accompagnée. Je pense que aussi j'ai eu la chance, comme disait un peu plus tôt Anna, Saint-Clon, c'était quand même une expérience en soi qui a l'habitude de profiter, qui sont en reconversion, donc qui nous a beaucoup accompagnés sur ce choix. Il y a eu aussi, on avait un stage en plein milieu de cette formation, donc qui pouvait confirmer ou infirmer le fait de continuer dans cette voie. Et j'ai vraiment eu la chance aussi de faire un stage avec une maître de stage exceptionnelle qui m'a permis du coup d'être vraiment encore plus motivée pour continuer. Donc ouais, non, j'ai plutôt rencontré des gens très bienveillants que le contraire tout au long de mon parcours.
En quoi, s'il y a des relations humaines saines, en fait les choses se passent, très bien.
Oui.
Très bien, merci pour ces témoignages. Anna, est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es dit est-ce que j'ai fait vraiment bien en faisant ça, ou tu as eu des doutes, ou tu t'es sentie en point de difficulté?
C'est vrai qu'au début j'avais des peurs, mais je pense qu'ils venaient un peu des traumatismes de la recherche d'emploi dans la culture, enfin des traumatismes entre guillemets, mais je savais pas ce que c'était d'arriver sur un marché de l'emploi qui était plutôt en bonne santé, mais c'est vrai, comme le disait Aurélie, en fait Saint-Plon nous a aussi très bien accompagnés et très bien préparés à ça, donc enfin ça s'est fait vraiment tout en douceur et sans aucun souci.
Et pour Pierre, ça a été pareil, c'était un parcours en descente, en douceur.
Alors pendant la formation, j'ai pas eu de soucis particuliers, ni pour trouver un stage. Tout ça s'est bien déroulé, bien passé. Moi, je trouve que j'ai été bien accompagné, même si à l'AFPA, bon, on a eu des petites déconvenues, on a dû prendre un peu les choses en main à certains moments pour réussir à obtenir une formation telle qu'on nous l'avait promise. Non, je dis ça parce qu'en fait, on a eu un ou deux formateurs qui n'étaient pas du tout à la hauteur, mais voilà, il y a eu un dialogue possible et finalement, ça s'est très bien passé. Moi, je suis vraiment très content d'avoir pu profiter de l'AFPA et passer par là.
Ils n'étaient pas à la hauteur d'un point de vue humain, de compétences sur les deux.
D'un point de vue vraiment de compétences techniques et puis même d'expérience en fait de l'enseignement. C'était sur la partie Linux surtout, sur la partie GNU Linux, même Unix en général. Hein. Voilà, et pour moi, ça comptait beaucoup parce que je savais d'emblée que c'est ce qui m'intéressait.
Ah, là, tu introduis un sujet intéressant, ouais. C'est-à-dire
Avant qu'on passe peut-être à la suite, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que ce qui n'a pas été très évident pour moi, effectivement, c'est peut-être la peur de l'obstacle. C'est-à-dire qu'une fois le diplôme validé, j'ai pas trouvé du boulot tout de suite. Enfin, j'ai pas cherché du boulot tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu, je pense, un petit peu l'appréhension de mettre en pratique ce que j'avais appris et de vraiment changer de métier. Et de fait, je crois que c'est aussi parce que moi, je m'étais jamais retrouvé en position de candidater. C'est-à-dire que moi, j'avais passé un concours de recrutement pour l'enseignement, donc j'ai eu le concours, donc j'ai pas candidaté. Et puis en restauration, finalement, j'ai trouvé du boulot en quelques jours, quelque part, dès que j'ai commencé à chercher. Enfin, et là, en revanche, j'ai dû me couler là-dedans, faire un CV, une lettre de motivation, etc., passer des entretiens. Et c'était c'était pas très évident de faire ça, ce que je découvrais. Et puis finalement, c'était très, très intéressant aussi parce que effectivement de rencontrer des recruteurs et de comprendre petit à petit que finalement mon profil pouvait les intéresser aussi pleinement, c'était très chouette.
Si j'ai bien compris, il y a eu une sorte de blocage juste après la formation. En quelque sorte, tu as procrastiné le moment de la recherche pour les raisons que tu as décrites. Merci de partager ce témoignage très personnel. Et finalement, quand tu as commencé la recherche, quand tu as démarré la recherche, c'était si difficile que ça? Parce que si j'ai bien compris, Aurélia et Anna, elles ont trouvé vraiment très très rapidement. Est-ce que c'était
non, j'ai pas. En fait, effectivement, comme tu le dis très bien, j'ai procrastiné. C'est-à-dire que j'ai. Alors c'est peut-être une question de tempérament aussi. Mais une fois que j'ai commencé à chercher, bon, je pense que j'ai trouvé en deux mois. J'ai dû passer, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'entretiens. Mais là aussi, c'est parce que moi, je voulais vraiment trouver commencer un boulot où je puisse travailler sur Debian, travailler sur du logiciel libre, et donc j'aurais pu trouver plus vite. Mais voilà, une fois que j'ai mis le pied à l'étrier, ça s'est déroulé bien.
Voilà, donc pour toi, le critère en fait de travailler autour de logiciels libres, donc le système d'exploitation GNU Linux, tu as parlé de la distribution Debian, qui est une des distributions les plus connues, sur laquelle se base par exemple une autre distribution très répandue, très populaire comme Ubuntu. Pour toi, ce critère était vraiment très important. Peux-tu nous dire pourquoi, quand tu avais rencontré le logiciel libre, quand il est tombé dans le logiciel libre?
Effectivement, c'était très important d'entrée de jeu. Je pense que quand j'ai commencé à faire de l'informatique, à apprendre un peu tout seul, en autodidacte, je suis venu assez... Alors, comme plein de gens, j'ai commencé sur un système Windows, avec l'ordinateur que j'avais acheté. Et en revanche, assez vite, je me suis intéressé à des logiciels libres, logiciels audio, photo, etc. Ça a commencé par mon usage personnel. Et là, je pense que c'est vraiment une curiosité, à la fois, bon, la curiosité pure, hein, c'est-à-dire que c'est le côté d'exploration, de bricolage, qui m'a amené aussi à l'informatique. Mais j'ai vraiment eu envie assez vite et clairement de j'ai vraiment été intrigué et intéressé par l'informatique libre au fur et à mesure que je découvrais ça, que je découvrais cette culture là et cet univers là et parce que avec ce que ça embarque en fait de marge de manœuvre, de liberté de naviguer peut-être, puis aussi d'idéologie. Enfin, moi je me sentais complètement en phase avec ce que ça proposait et pas du tout avec les fonctionnements fermés, je caricature un peu, mais les fonctionnements fermés.
Est-ce que c'est
de Microsoft ou d'autres, quoi.
Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu étais, comment dire, documenté tout seul, c'est-à-dire tu te baladais sur l'internet, ou est-ce que c'est passé par des gens, est-ce que tu as parlé avec des personnes qui t'ont parlé de logiciel libre? Est-ce que ça a été une découverte plutôt en solo, ou c'était peut-être un groupe d'utilisateurs, d'utilisatrices de logiciels libres sur lesquels tu es tombé?
Non, c'était vraiment en solo, mais ça m'a fait arriver sur des logiciels libres, ça a fini par me conduire à essayer Ubuntu, puis Debian plus tard, et ça m'a conduit aussi à devenir membre de l'April.
Très bien. Anna, Aurélia, je vous pose la même question. Est-ce que le logiciel libre, le fait que l'entreprise s'occupe des services de logiciel libre était un critère pour vous? Et autre question qui est très liée, est-ce que pendant votre formation ou même pendant votre vie, est-ce que vous avez rencontré le logiciel libre, la philosophie du logiciel libre? Aurélia, tu veux peut-être prendre la parole?
Oui, j'avoue que pas tant que ça, en fait, j'avoue que c'est un sujet que je connais assez mal, mis à part, quand j'ai commencé à coder, j'étais sous Ubuntu, mais j'avoue que je me suis pas vraiment posé la question jusqu'à ce qu'on me la pose et que ça vienne un peu à moi. Maintenant, en fait, dans mes projets actuels, je travaille beaucoup on en avait un peu parlé ensemble, Isa, sur des questions de données utilisateurs et de qu'est-ce qu'on fait de nos données utilisateurs. Et donc, c'est des sujets qui commencent à bien m'intéresser. Notamment, là, en ce moment, j'essaye un peu de découvrir le logiciel de Matomo qui permet de faire de l'analytique tout en préservant, en fait, les données utilisateurs. Et donc, voilà, je suis encore très novice sur le sujet, mais je trouve que c'est assez passionnant et j'ai, par exemple, adoré la conversation que j'ai pu avoir avec toi, Isa, sur le sujet.
Je confirme, Aurélien me posait plein de questions et moi, j'étais ravie à chaque fois que je peux sensibiliser quelqu'un sur le logiciel libre. j'en suis vraiment ravie. Et tu me disais, sauf erreur, que Matomo, tu l'as rencontré parce que, alors déjà, on a bien expliqué qu'est-ce que c'est Matomo. Tu peux le redire en deux paroles, s'il te plaît.
Alors c'est un logiciel d'analytique, donc je sais pas si j'ai le droit de citer d'autres marques ou quoi que ce soit.
Oui, il y a une marque qu'on connaît bien, voilà, qui permet de faire des analyses, on va dire, pour tout, voilà, ce qui est le web.
Voilà, ça commence par goût et ça finit par
voilà.
Et En fait, voilà, sauf que cette entreprise particulière, elle permet de savoir en fait le comportement d'un utilisateur, que ce soit sur une application ou sur un site internet, mais on ne sait pas vraiment en fait ce qu'elle fait de ces datas, et contrairement à Matomo, qui est plutôt transparent sur le sujet et qui va même jusqu'à proposer une version qu'on peut installer sur son serveur, qui permet vraiment de récupérer ses propres données et de pas de pas laisser filtrer les données de ses utilisateurs.
Et si je me souviens bien, c'est suite à une recommandation de la CNIL que tu as commencé à te rapprocher de ce logiciel.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, je travaille sur un projet qui concerne la CNIL et l'éducation nationale, où on essaye de protéger les données utilisateurs, parce que là, on parle quand même, vu que c'est l'éducation nationale, principalement de mineurs. Et en fait, Matomo est une des recommandations. Et c'est vrai que moi, avec arrivant complètement sans connaissance, on m'a parlé de Matomo, et du coup, je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis partie un peu explorer. Et c'est une solution alternative qui est extrêmement intéressante. Il y a pas mal de gens finalement qui l'utilisent, et du coup une communauté assez grande.
Donc, voilà. C'est l'un des avantages des logiciels libres qui appartiennent uniquement aux personnes qui les utilisent, et il y a tout naturellement des communautés qui se forment autour des logiciels, de contributeurs, d'utilisateurs et utilisatrices, développeurs, etc. Donc c'est l'une des aspects vraiment chouettes, humains et solidaires du logiciel libre. Anna, la même question pour toi. Est-ce que le logiciel libre a été un critère de choix pour la recherche d'un travail en informatique? Et est-ce que tu as rencontré le logiciel libre pendant, par exemple, ta formation ou pendant ta vie personnelle?
Alors oui, mais ce que j'ai pu constater surtout, c'est que le logiciel libre, c'est quelque chose qui est quasiment indispensable pour tout ce qui est auto-formation et en fait pour la découverte de l'informatique. Enfin, je pense que ça ouvre des portes qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas les logiciels libres. Typiquement, nous à Saint-Plon, moi j'avais eu un ordinateur reconditionné qui était sous Linux Mint. J'ai appris à m'en servir, je pense que Saint-Plon n'aurait pas forcément eu les moyens, ou même la volonté, je pense, mais pas les moyens de nous payer des Mac, des Windows. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, donne accès à l'informatique à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et du coup, j'avais trouvé ça formidable. Enfin, tout ce monde. Moi, c'est vraiment le côté économie sociale et solidaire. Enfin, du coup, c'est pas forcément l'économie, mais le côté vraiment, ça donne accès à des choses, à des personnes qui
lutte contre la fracture numérique.
Voilà, exactement. La lutte contre la fracture numérique, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et par contre, non, je ne l'ai pas envisagé au moment de chercher du travail, tout simplement parce que à cette époque, et encore un tout petit peu maintenant, c'est un monde qui m'impressionne énormément. Enfin, pour moi, c'était un peu l'image que j'en avais de gens extrêmement passionnés et extrêmement compétents. Et en fait, je me sentais pas du tout de travailler dans une entreprise. Enfin, vraiment, j'avais pas l'impression que j'aurais les compétences nécessaires pour apporter ma pierre à l'édifice.
D'accord, donc une espèce de sacralisation du geek libriste.
Exactement.
Pierre, est-ce qu'on peut démystifier tout ça?
Non, ça me prend un petit peu au dépourvu, cette question.
Ça venait comme ça.
Qu'en milieu libriste, je ne saurais pas trop, du coup.
C'est-à-dire, est-ce que tu t'es retrouvé dans la même situation d'Anna? Oh mon Dieu, je vais dans un monde de super compétents, de presque super-héros de l'informatique. Est-ce que tu ressentais un peu de pression comme Anna?
Non, c'est pas tellement par là qu'il pourrait y avoir de la pression, c'est plutôt par le pendant social de mon milieu de travail technique, que tu connais, Isa, tu vois, parce que bon, voilà, moi je travaille chez une société qui s'appelle Easter Eggs et qui est spécialiste en logiciels libres, notamment Debian et puis plein d'autres choses, et où effectivement il y a beaucoup de compétences, il y a une très forte compétence. Et, donc mon premier poste, j'ai fait une première boîte avant celle-ci. Et mon premier boulot en informatique, donc du coup je travaillais sur des Debian, sur des logiciels libres, etc., mais pas du tout exclusivement. C'est-à-dire que j'étais dans une boîte généraliste qui faisait du Lotus, du Windows, etc., et moi je me débrouillais là-dedans pour faire travailler majoritairement sur du Linux et Debian. Mais effectivement, du coup, c'est plutôt moi, ce qui a pu me retenir, c'est plutôt le pendant social en fait du choix du logiciel libre, c'est-à-dire voilà, une vraie promotion de l'égalité, de la, dans le choix des orientations d'une société, enfin d'une boîte, d'égalité dans le travail, enfin dans la rémunération aussi d'ailleurs, et tout ça, c'est effectivement c'est pas très très évident, parce que ça sort des logiques habituelles. Hein, de...
Il n'y avait pas que le critère logiciel libre, il y avait aussi ce critère là, comme tu dis, social, et on peut le dire, hein, Hysterex fait partie. D'ailleurs, on a déjà invité plusieurs entreprises qui font partie du réseau Libre Entreprise, qui s'engagent effectivement à gérer aussi l'entreprise d'une certaine façon. Ce sont les salariés, hein, collectivement, qui prennent les décisions. Après, je ne sais pas s'il y a des différences entre une entreprise et l'autre, mais le manifeste, la charte, on va dire, de Libre Entreprise est plutôt ça. Tu confirmes ?
Oui, tout à fait. Après, il y a des différences entre les entreprises de ce réseau. Mais alors moi, c'est pas ma première. Effectivement, c'est pas ma première boîte. Et j'aurais, je pense, pas du tout imaginé pouvoir rentrer dans ce milieu-là parce que effectivement, il me semblait impressionnant. Et quand je les ai connus parce qu'on travaillait pour un client commun. Et je me disais, non, c'est pas pour moi. Et de fait,
finalement, ça s'est fait.
Oui, parce que y a un principe fort de solidarité et d'égalité, mais pas d'égalité, forcément de compétences ou arithmétique. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt une égalité dans l'engagement, dans la rémunération aussi. Enfin, concrètement, ça se traduit comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on est tous au même niveau techniquement, ça veut pas dire qu'on est tous capables de faire exactement la même chose.
On parle du principe que vous avez tous envie de faire bien et de vous entraider et que votre projet se passe bien.
Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi c'est vraiment une traduction de ce choix technique du logiciel libre, c'est la traduction sociale quoi.
Merci. On parle de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Il y a énormément de métiers possibles et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre métier en particulier. Par exemple, pourquoi vous avez choisi ce métier plutôt qu'un autre. En ce moment, parmi les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, il y a personne qui fait du développement, par exemple. Vous êtes passé par votre formation, peut-être, mais finalement, voilà, il y a chef de produit, chef de projet web et administrateur système. Aurélia, tu veux peut-être nous dire pourquoi tu t'es orientée vers le métier de chef de produit ou comment tu es atterri sur ce métier?
Bah déjà, j'aime pas trop le terme de chef. Enfin, je suis chef, personne mis à part de moi-même.
Préfère la version anglaise.
Oh non, même pas, parce que je manage moi-même aussi. J'ai même du mal à manager ma fille de 7 mois, donc c'est pas trop. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt le produit, moi, qui m'intéressait vraiment. Et surtout, en fait, faire un produit, c'est chouette, mais faire un produit, pourquoi, c'est mieux. Enfin, moi, j'adore mon métier dans le sens où je cherche toujours le pourquoi on travaille sur quoi et quels sont, et en fait je suis aussi beaucoup dans le lien entre les utilisateurs et les gens qui veulent créer des choses pour répondre à des vrais besoins. Et puis je pense que si, c'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt, je pense que s'il y a un point commun sur tout mon parcours professionnel, c'est vraiment cette attraction envers les gens, envers leur parcours et envers leurs besoins et leur histoire. Je trouve qu'on est quand même tous assez uniques et on a tous des choses assez intéressantes à raconter. Et du coup, moi, dans le produit, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce côté assez humain des choses. Voilà.
Aurélia, je peux te dire une chose. Quand tu me parles d'aller vers les gens, vers leurs vrais besoins, bah, tu es faite pour le logiciel libre. Hein.
Ouais.
c'est vraiment ça. Le logiciel libre, par définition, c'est sur mesure, parce que c'est le code ouvert. On peut le modifier en toute liberté. On met à la première place les besoins des personnes qui vont l'utiliser. Donc, tu es faite pour lui. Hein. Réfléchis, parce que ça se fait dans quelques années.
Mais depuis notre conversation, j'arrête pas d'y réfléchir. J'étais voir le collectif Chaton, etc. Je pense que tu es en train de me convertir.
Super.
Sans problème.
Anna, tu veux parler de ton poste, de ton métier aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi ce métier? On le rappelle, chef de projet web.
Yes. En fait, ce qui était un peu aussi le fil conducteur de toutes mes formations, même en histoire de l'art, tout ça, c'était aussi la gestion de projet. J'ai fait beaucoup d'associatifs où je gérais des projets. Et en fait, c'était quelque chose que j'aimais vraiment faire. Et je suis aussi un peu arrivée à ce point avec cette idée de Si je veux être une bonne chef de projet informatique, il faut que je sache coder et il faut que aussi j'ai fait un peu que je sois passée par là. Du coup, j'ai commencé par être développeuse, j'ai adoré ça. Et ensuite, je suis passée un peu naturellement parce que c'était aussi des choses où bah, j'ai un master en gestion de projet, j'ai ce genre de choses. Ça s'est fait un peu naturellement, je suis devenue chef de projet. Mais je code quand même en hobby à la maison quand j'arrive à avoir le temps de me poser pour coder. Enfin, ça reste... En fait, c'est plus que au départ, j'ai toujours voulu être chef de projet. Le code s'est rattaché à ça. Et finalement, j'ai fait un peu une sorte de mon propre métier passion qui est de la gestion de... La gestion de projet web.
J'allais justement te dire, vu que ça te plaisait autant, est-ce que ça te manquait? Ben, tu as trouvé effectivement une façon de le faire dans ton temps libre, donc tu n'as pas abandonné le code non plus. Aurélia, toi, tu codes? As-tu eu l'occasion de coder? Tu codes encore?
Alors, je code un petit peu dans le cadre de mon métier quand il y a besoin, sur des choses très très simples. Sinon, j'avoue plus trop. J'aide des fois un peu mon compagnon qui lui aussi est développeur et qui développe pour son temps libre un jeu vidéo. Donc, ça m'arrive
des UT
ponctuels. C'est du C++, en plus, c'est un langage très chouette. Mais voilà, c'est très ponctuel, je pense, moins que Anna.
D'accord, et ça te manque pas en fait. Tu le recherches même pas, sauf quand tu ziètes dans les lignes de ton compagnon.
Voilà, ça va être un peu comme ça. Ou alors, je pense que d'une manière générale, le code, ça a plus été un moyen qu'une fin pour moi. Par exemple, j'avais un moment un projet de faire un site, etc., pour une copine, etc. Enfin, donc, du coup, c'était plus le projet en lui-même qui m'intéressait que de l'aider. Et du coup, il fallait un moyen, il fallait un site vitrine, des choses comme ça. Et donc, dans ces cas-là, j'étais vraiment ravie de le faire. Mais c'est vrai que même si je trouve ça chouette, le code, c'est un peu ce que je disais, pour moi, c'est un peu jouer au Lego. Même quand je joue au Lego, en fait, je joue au Lego pour construire quelque chose et non pas pour jouer juste au Lego. Voilà.
Merci. Pierre, à toi, pourquoi administrateur système? Pourquoi pas autre chose? Il y a tellement de métiers dans l'informatique.
Effectivement, je me suis posé la question quand j'ai commencé à rechercher des formations. J'y ai pensé. Et finalement, j'ai renoncé. J'ai renoncé à faire une formation en développement. C'était possible à l'AFPA, mais j'ai préféré faire une formation à la mine système réseau. Alors pourquoi? Il y avait peut-être une petite appréhension, je me disais peut-être que ça serait trop dur. Mais je crois que c'est surtout parce que j'ai vu ça un peu, alors sans doute à tort, enfin en partie à tort, mais j'ai vu ça, je pense, comme un métier trop où on est trop sur la machine, quoi. Et on est trop isolé, trop dans un tête-à-tête avec une machine, en permanence. Alors que moi, voilà, mon métier d'admin me donne la possibilité peut-être d'être plus en relation avec une clientèle, avec des clients. Et par ce biais-là, moi, je pouvais retrouver en fait vraiment le plaisir que j'ai eu à être en relation client, en restauration, tout simplement. Mmh. Et puis en relation avec un public aussi quand j'étais prof. Et voilà, pour moi c'était quelque chose d'important et je peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai choisi admin et non pas dev.
C'est le même côté dont parlait Aurélia aussi. Je remercie, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous propose de donner peut-être des conseils ou des recommandations ou sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire ou un mot pour une personne qui se tâte, qui se dit tiens, je vais peut-être me reconvertir dans le métier de l'informatique. Qu'est-ce que vous lui direz si elle est un peu en doute? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole parce que c'est une question un peu surprise, donc t'en prie Anna.
En fait, c'est simplement ce que moi j'ai fait avant de me lancer dans la formation. C'est un conseil que je donne à pas mal de gens, sur internet il existe plein de mini formations pour coder et plein de petits tests, de petits jeux, de petits machins. Déjà saigner ça peut permettre de savoir si c'est quelque chose qui est fait pour nous et qui nous plaît. Un premier test, c'est ça. Si au bout d'une semaine on en a déjà marre, bon bah c'est que c'est pas ça.
Très bien. Aurélia, peut-être.
Moi, je suis assez d'accord avec Anna comme souvent, et je rajouterais qu'il faut pas avoir peur. Enfin, moi, je trouve que le monde de l'informatique, ça peut être vite un espèce de monde où on imagine des codeurs dans des caves qui ne poteraient pas, qui sortent pas beaucoup, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Il faut vraiment Ouais, il faut se lancer. C'est ça qui peut être le plus dur, mais il faut pas hésiter. On a la chance d'être dans une ère où il y a pas mal de formations. Je pense qu'il faut faire attention aussi un peu à boire et à manger, et donc bien se renseigner en amont sur les formations. Mais voilà, c'est à la portée de toute personne qui en a envie, je pense.
Merci, Pierre.
Je sais pas trop quoi donner comme conseil, sinon que il faut je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur du changement, de recommencer. Et puis je dirais, en tout cas par rapport à la formation en informatique, moi je conseillerais pas de courir forcément après des certifications, des ci, des ça, enfin des étiquettes. Parce qu'il y a certainement plein d'environnements de travail où on est très intéressé par, on peut être très intéressé par des profils atypiques, des profils justement venant pas de là, mais pouvant apporter autre chose avec une maturité ou un regard d'ailleurs en fait différent et moins formaté quoi.
Merci. Je trouve que même si c'était une question surprise, vous êtes très très bien débrouillé. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation à cette émission. Donc, merci à toutes nos personnes invitées, Anna Catellino, Aurélia Garnier, Pierre Fumé. Je vous souhaite une bonne continuation.
Merci à toi, Isa.
Merci les oiseaux.
Merci.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au sujet de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter Totem Culturel par Jean Bleu. Sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Le genre cette fois c'est du psychobilly. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va dire que c'est un sous-genre du punk et du rock. Et ce morceau va aussi me permettre de faire une très très bonne transition avec la chronique qui suit. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Multiplication des modes pour effacer les antipodes. Retour choix dans ton pays, être le seul parasitier.
de nouveau au studio. Donc, nous avons écouté Totem Culturel par Jean Bleu sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Et nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc qui est avec nous aujourd'hui au studio. Bonjour Luc. Comme je le disais avant la pause musicale, le morceau des Jean Bleu me permet une bonne transition car c'est un groupe qui a publié, il n'existe plus, mais il a publié avec la coopérative d'artistes AMMD qui produit de l'art sous licence libre ou sous libre ou de libre diffusion avec des matériels et des logiciels libres et pour laquelle toi aussi Luc, tu as publié une œuvre, un roman photo si je ne me trompe pas.
C'est ça, alors ils font que de la licence libre. Hein.
Que licence libre.
Des puristes de chez puristes, donc il n'y a pas de licence Creative Commons non libre.
Merci pour cette précision et je te laisse la parole pour ta chronique.
Alors, 10 d'un coup, c'est le nombre de géants de la tech que Macron, ce vaillant petit tailleur des temps modernes, souhaite pour l'Europe dans la décennie à venir. Alors je précise tout de suite que Gutenberg, Dante ou Cervantec sous stéroïdes ne sont pas le type de géants de la tech auquel pense notre héros de conte. On connaît la version Mickey dont le principal prodige est d'exploiter le domaine public tout en parvenant à rester indéfiniment en dehors de celui-ci. La version originale est plus intéressante. Elle parle en effet de géants, mais aussi de licornes. Les frères Grimm avaient notre nouveau monde du digital en tête quand ils l'ont couché sur papier, c'est sûr. Le vaillant petit tailleur est un personnage à la mesure de notre époque. Il est radin, menteur, manipulateur. Il gravit les échelons en exploitant la naïveté et la lâcheté de ses contemporains jusqu'à épouser la fille du roi qui ne veut pas de lui. Parce que bon, une princesse, c'est juste un bien positionnel comme un autre. Puis finalement, il pique la place de beau-papa. Le vaillant petit tailleur est un exemple de réussite. Il roule pour sa gueule uniquement et prospère au détriment d'autrui. Il est parfaitement en ligne avec ces fameux géants de la tech. La liste de leurs coups pourris est interminable et ça marche parce qu'ils promettent de prendre en charge tous nos soucis. Bien souvent, leurs créateurs ont trahi dès le début de leur parcours. Ils mentent, trichent, demandent hypocritement pardon, mais n'ont que leur intérêt propre en ligne de mire. On a les GAFAM en tête, mais les natus sont pas mal aussi. Netflix, Airbnb, Uber sont tout aussi lamentables et portent leur activité malfaisante dans d'autres domaines. Et pourtant, c'est ce genre de business prédateur qui est Macron-patible. Il n'est pas le premier à en rêver. Sarkozy premier avait fait appel à la fine fleur des grosses boîtes du Royaume de France pour pondre un cloud souverain. Nos champions nationaux, chez qui nos chambellans de la haute fonction publique trouvent couramment des pantoufles de verre, ont bouffé tout le pognon, mais n'ont accouché ni de géants, ni de licornes, ni même d'une souris. Fleur Pellerin avait, elle aussi, appelé à faire du gras en encourageant les entreprises de l'open source à se restructurer pour faire de gros champions avec qui discuter, parce que la taille, ça compte. C'est pour ça que des petits tailleurs parviennent à berner leur monde. Le gouvernement a cru en Quant parce que ses ambitions démesurées ont été répétées à l'envi, flattant les fantasmes gouvernementaux de chevaliers français héroïques pouvant enfin terrasser le dragon Google. Déception intense quand il s'est avéré que le pro-chevalier était en affaire avec un autre dragon. Sous l'armure, il n'y avait qu'un vaillant petit tailleur de plus qui s'est fait griller à l'étape des 7 mouches. Les ambitions de Macron ressemblent d'autant plus à des rêves de contes de fées quand on considère les annonces toutes fraîches sur le cloud de confiance où les candidats considérés comme sérieux sont ceux qui achètent des technos d'Amazon et de Google sous licence. En fait, Macron n'est pas le vaillant petit tailleur. On le devine au fait qu'il n'a pas de ceinture où il est brodé 10 d'un coup, donc sauf à ce que ce soit tatoué sur son pelvis, il est plutôt le roi du compte. Il est celui qui n'arrive pas à faire face aux géants, à la licorne et au sanglier. C'est ce monarque qui va vendre sa fille et son royaume à des petits malins radins, menteurs et astucieux pour qu'il résolve ses problèmes à sa place. On pourrait se référer à d'autres mythes pourtant, si on évoquait plutôt Achille ou Siegfried, pour former le projet d'attaquer les puissants par leurs points faibles. L'interopérabilité décochée dans leurs talons et on découvrira que les géants avaient des pieds d'argile. Des actions efficaces pour renforcer et faire respecter le RGPD et l'œil de Sauron se révélera myope. Une politique de financement des communs et plus personne ne sera affamé et tenté par la maison de sucre de la sorcière, ni en danger de voir sa maison de paille s'envoler sous le souffle du loup. Je pense qu'à la fin de l'histoire, les monstres américains ou chinois seraient terrassés et que les Européens vivraient heureux et auraient beaucoup de libertés informatiques.
Merci Luc pour cette pituite qui on retrouvera ta chronique normalement à la rentrée en septembre.
Oui.
Bah super, donc merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Je vous rappelle que la radio Cause Commune, La Voix des Possibles sur la bande FM sur 93.1 en Ile-de-France, c'est de midi à 17h. puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. La radio diffuse également en DAB+, 24h sur 24 et partout dans le monde sous le site causecommune.fm. L'émission et plus globalement la radio est contributive. N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous trouverez sur le site april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio par un don ou par des actions bénévoles. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune, radio associative. La radio a besoin de soutien financier pour notamment payer les frais matériels, comme le loyer du studio ou la diffusion sous la bande FM, les serveurs. Nous vous encourageons donc à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sous le site causecommune.fm. Vous pouvez aussi aider en consacrant du temps. Dans les annonces d'aujourd'hui, cette émission du jour est la dernière de la saison 4, reprise en septembre. N'hésitez pas à nous envoyer des idées, des suggestions, à expliquer ce qui vous plaît dans l'émission, car nous allons profiter de l'été, évidemment, pour préparer la saison 5. La conférence « Le net masque et la plume sur l'histoire et l'évolution de la cybersécurité » aura lieu en ligne demain, mercredi 30 juin à 14h. C'est animé par 4 journalistes experts du domaine, dont Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact, que nous avons eu l'occasion de recevoir à de nombreuses reprises dans l'émission. Le site, c'est lenetmasquetelaplume.org. La référence est sous le site de l'April, april.org. Une nouvelle réunion du groupe sensibilisation de l'April se tiendra à distance le jeudi 1er juillet à partir de 17h30. J'animerai cette réunion. Toutes les informations sont disponibles sur le site april.org. Les événements en présentiel autour du libre commencent finalement à être organisés. Finalement, depuis quelques semaines déjà, vous pouvez les retrouver sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. On a mis à jour notre page avec l'ensemble des podcasts de Libre à vous que vous pouvez emporter avec vous pendant vos vacances. Il y a plus de 100 émissions et 6 émissions musicales découpées en plusieurs sujets, disponibles individuellement d'une dizaine de minutes à une heure à écouter ou réécouter. Bon anniversaire à linuxfr.org, le site d'information francophone sur le logiciel libre qui fête cette année ses 23 ans. Mon collègue Fred Couchet vous donne rendez-vous pour 2 émissions qu'il propose à titre personnel. La première, c'est lundi 5 juillet de 21h à 22h30 avec son camarade Midi, qui vous fera voyager musicalement avec de la techno, de la house, du hip-hop, de la drum and bass, du reggae, en fonction de l'aspiration. Ensuite, mercredi 7 juillet, toujours de 21h à 22h30, Fred vous propose la première d'une nouvelle émission intitulée « Chemin de traverse ». Son invité, Éric Dufailly, nous fera découvrir l'orchestre « Petite main symphonique » qui est constitué exclusivement d'enfants âgés de 6 à 17 ans. Rendez-vous pour ces 2 émissions donc sur causecommune.fm ou sur 93.1 en FM ou en DAB+. En Ile-de-France. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Laurent et Laurette Costi, Anna Catellino, Aurélia Garnier, Pierre Fumé, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Adrien Bourmont, bénévole à l'April. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linguen, bénévole à l'April. Merci encore une fois à Adrien Bourmont car il s'occupera également de découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu normalement direct, mardi 7 septembre 2021, toujours à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et un excellent été. On se retrouve en direct à la rentrée et d'ici là, portez-vous bien.